Et en première partie de la grande visite, c'est Madame la juge Michelle Obomsawin de la Cour suprême.
Oui, la première femme autochtone à être élue à la Cour supérieure de l'Ontario et la première femme autochtone et la première autochtone aussi à être élue. Pas être élue, mais être nominée à la Cour suprême du Canada.
Bonjour, Madame la juge.
Quoi, Madame la juge?
Quoi?
C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir à l'émission. On imagine que vous devez être très occupé, donc que vous ayez pris le temps de venir avec nous pour discuter de votre nouvelle nomination, de vos ambitions comme juge. C'est vraiment un grand honneur. Je vous dis vraiment Olioni.
Olioni pour l'invitation.
Dernièrement, vous avez reçu cette nouvelle-là. Je voyais dans des reportages vous concernant que vous étiez comme une petite fille quand vous avez envoyé le formulaire pour démontrer votre intérêt à devenir juge à la Cour suprême. Est-ce que le sentiment de petite fille-là aussi a été grand d'excitement quand vous avez appris la nouvelle?
Ah oui, absolument. Je dois dire, lorsque j'ai reçu l'appel du bureau du premier ministre, j'étais dans ma cuisine avec mon époux. Puis, pour être honnête, je faisais des thumbs up pour lui montrer bonne nouvelle. Il me regardait avec un point d'interrogation en voulant dire, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis ensuite, j'ai débarqué. Puis, pour être honnête, j'avais des larmes aux yeux. Puis, j'ai dit, le premier ministre peut me rencontrer. Donc, là, j'ai fait une petite danse dans ma cuisine. Là, on était vraiment heureux.
Après ce première réaction, tout à fait légitime, bien sûr. Est-ce que vous avez eu une petite lourdeur? C'est quand même lourd à porter, hein?
Ah oui, absolument. C'est quand même, des fois, tu te sens un fardeau, c'est plus lourd. Je me sens des fois sous le microscope, comme toutes les autres qui ont passé comme des grandes premières. C'est toujours le microscope un petit peu plus sur le travail qu'on fait, mais à la fin de la journée... C'est super excitant, puis je me sens tellement choyée d'avoir été choisie pour cette nomination.
Dans la vie de tous les jours, on sait que la Cour suprême n'a pas tout le temps une influence directe sur la vie des Premières Nations, mais peut avoir une influence à long terme, peut amener des principes comme GLADU, comme la reconnaissance de certains droits territoriaux ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez conscience quand même des attentes que beaucoup de Premières Nations vont mettre en vous en vous voyant nommé à cette position-là?
Oui, absolument. J'y suis consciente. Vraiment, juste à lire les nouvelles après ma nomination, c'était clair qu'il y a des attentes nationales. Mais je dois vous avertir, je suis seulement une parmi neuf. Moi, j'ai quand même mon propre bagage, ma propre expérience de vie, comme une femme autochtone qui vient d'un petit village francophone au nord de l'Ontario. Donc, avec ça, j'amène mon expérience de vie, qui est unique à moi, lorsque je vais aller de l'avant de ce nouveau poste. Mais, tu sais, je suis une voix parmi neuf.
Mais c'est sûr, ce que dit Alexis me semble tout à fait plausible. Et quand on arrive là, comme autochtone, première autochtone dans ce poste, c'est sûr que les Autochtones ont une attente par rapport à vous. Est-ce qu'il y a de la place pour un préjugé favorable aux Autochtones? Je ne sais pas comment dire exactement.
Non, je dirais non, parce que mon premier rôle, c'est d'être une juge indépendante, impartiale. Donc, j'ai déjà dit auparavant, je suis juge en premier lieu. Puis par la suite, ben là, c'est vraiment mes expériences de vie qui me nourrissent.
Être juge en premier lieu, est-ce qu'on est quand même, ça laisse quand même de la place pour reconnaître qu'il y a une réalité coloniale qui est toujours en place dans le Canada puis dans les provinces? On sait que, je comprends que vous devez quand même garder votre devoir de réserve, vous avez votre rôle de juge qui doit être mis de l'avant en premier. J'ai pu vivre un peu la même chose à l'époque où j'étais député, où je me disais député d'Abitibi-Est en premier avant d'être le député des Autochtones. Il y avait quand même beaucoup d'attentes envers moi à cette époque-là. Mais il reste que c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut sûrement balancer de votre côté, ces attentes-là, puis la réalité que beaucoup d'Autochtones perçoivent comme étant encore coloniale.
Oui, non, ça je comprends. C'est une réalité que nous vivons dedans, comme Canadiens. Puis à la fin de la journée, moi, je peux faire mon devoir du mieux de mon possible à la Cour suprême comme juge indépendant.
Vous êtes beaucoup occupé dans votre carrière de santé mentale. Est-ce que ça vous préoccupe toujours autant?
Oui, absolument. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs gens que nous connaissons dans nos propres milieux, des parents, des enfants, des membres de nos familles, nos amis proches, qui souffrent et sont touchés par la santé mentale. Donc, mes années au groupe de santé mentale Royal Ottawa m'ont beaucoup informé mon point de vue. Puis, moi, mes mandats comme avocate, mais même comme juge, c'est d'en parler de la santé mentale. C'est très important pour en discuter, pour que le stigma puisse se délaisser. Parce qu'à la fin de la journée, le plus qu'on en parle, le plus que c'est moins un sujet tabou.
Madame l'honorable juge Obamsawin, vous nous rappelez que vous êtes une juge parmi neuf. Pour les auditeurs qui seraient moins connaissants du système de fonctionnement de la Cour suprême, est-ce que la Cour suprême, ça fonctionne quelque part en collégialité ou c'est que vous allez avoir des discussions relativement à une cause pour l'analyse des dossiers ou chacun de votre côté, vous restez comme un peu dans vos bulles et vous allez définir vos critères, votre analyse sans avoir de discussion avec les autres juges?
Ça commence vraiment dans une bulle où que nous allons tous réviser chacun les dossiers qui sont présentés à la Cour. Mais avant qu'on se rencontre pour la journée d'audience, nous avons une rencontre. Ça dure environ une demi-heure, des neuf juges ensemble pour parler du dossier. Il y en a qui vont fournir leur point de vue à ce moment-là. Par la suite, nous allons entendre la matière. Puis ensuite, nous réunir de nouveau tout de suite après l'audience a eu lieu pour avoir une discussion au sujet de nos points de vue, qui sont un petit peu plus formels à ce moment-là.
Mais quand vous parlez entre vous comme ça, est-ce qu'il arrive qu'un des juges essaie de convaincre un autre de changer de point de vue?
Moi, je dois dire, je suis tellement nouvelle. Il y a juste une semaine, j'ai siégé deux fois la semaine passée à Québec. Donc, mon expérience avec les neuf juges est plutôt limitée. Mais je dois dire, dans mon expérience, lorsque je siégeais à la Cour divisionnaire, c'était des panels, des appels de panels de trois juges. Ça arrive couramment que tu essaies de justifier ton point de vue. Puis des fois, si tu es minoritaire, tu essaies de convaincre les autres pour te joindre à ton côté, pour devenir majoritaire. Donc, c'est sûr, c'est des choses qui se font. Mais tu sais, c'est toujours d'une façon respectueuse, là.
Oui, parce que au bout de la ligne, vous avez chacun votre position de juge qui doit être indépendante et sans influence indue.
Oui, absolument. Puis je ris tellement parce qu'un de mes collègues a déjà dit c'est comme un mariage avec huit autres personnes. Donc du jour à l'autre, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble, mais c'est quelque chose de continu pour plusieurs années à venir. Donc ouais. Le respect envers un et l'autre est très important.
En parlant de plusieurs années, vous êtes encore très jeune, vous en avez jusqu'à 75 ans là, comme juge de la Cour suprême. C'est long, vous allez aimer ça pendant les 25 ans et plus? Là?
Ben, je dois dire, si j'aurais pas pensé d'aimer ça, j'aurais jamais fait de demande. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu être juge. J'étais juge les dernières cinq années à la Cour supérieure de justice, à entendre une multitude de procès. C'est quelque chose qui me stimule du côté litige, du côté académique, surtout ici à la Cour suprême, étant donné que je viens juste de finir un doctorat en droit. Donc, pour moi, c'est stimulant, c'est intéressant, c'est excitant. Puis, c'est ça, c'est juste le début d'une longue carrière. Puis, j'appelle ça vraiment ma troisième partie de carrière, parce que la première était vraiment comme avocate, par la suite comme juge à la Cour supérieure et maintenant comme juge à la Cour suprême. Donc, moi, c'est ça, je suis dans le troisième palier.
Madame l'honorable juge Obamsawin, on va prendre une petite pause. On vous revient tout de suite après l'entremède musical.
OK, parfait, merci.
On est de retour avec l'honorable juge Obamsawin, première femme autochtone, première autochtone à être nominée à la Cour suprême du Canada. Quoi et encore? Dans le vif du sujet, moi, je suis, en plus de faire cette émission-là, aussi avocat en droit des peuples autochtones, et j'ai à travailler notamment en protection de la jeunesse. Vous aviez dit lors des entrevues puis tout ça que par rapport, je pense à l'audition devant le comité, que par rapport à votre connaissance du droit civil, vous alliez comme faire vos classes, vous alliez en apprendre beaucoup des trois civilistes qui sont juges à la Cour suprême.
Oui. Puis, je dois vous dire, j'ai déjà adopté le juge Cassira comme mon mentor.
Bon, tant mieux. Où je veux en venir avec ça, c'est que on voit beaucoup, moi, dans ma pratique, j'ai vu beaucoup de juges même pas prendre en compte les questions d'impact intergénérationnel des pensionnats. Par exemple, dans un dossier en protection de la jeunesse, l'enfant est en protection de la jeunesse, la mère a été en protection de la jeunesse, le père de la mère a été envoyé dans un pensionnat non indien par les services sociaux, puis la grand-mère a été au pensionnat indien.
Oui.
On voit qu'il y a, comme toute une... un impact intergénérationnel puis une transmission des traumas intergénérationnels d'une génération à l'autre. Et j'avais plaidé ça, et le juge n'avait même pas pris en compte cet aspect-là du tout dans l'idée qu'il fallait que l'enfant puisse garder des liens avec sa culture, puisse avoir des possibilités d'apprendre sa langue. Et j'avais trouvé ça quand même assez frustrant. Où je veux en venir avec ça, c'est est-ce que vous pensez que les autres juges vont faire un peu comme vous le faites avec les civilistes, venir vous voir pour les questions de droits autochtones pour essayer de mieux comprendre ces réalités-là?
Ça, je ne sais pas. Je dois dire, lorsque j'étais à la Cour supérieure de justice, à cause de mon expertise dans les principes Gladue,
mm-hmm.
c'était quelque chose qui se faisait assez fréquemment.
Oui.
Donc, il est fort possible que ça l'arrive, parce que ça m'est arrivé quand même assez souvent lorsque j'étais à la Cour supérieure de justice, parce que qu'est-ce que toi tu parles, c'est vraiment l'application des gens de
Gladue, des rapports de Gladue. Si vous me permettez, je veux juste expliquer aux auditeurs c'est quoi que Gladue. C'est, dans le fond, les rapports Gladue en droit criminel, c'est quand on va demander une expertise sur non seulement la vie de l'individu, mais aussi son contexte historique de sa nation puis de sa famille, si je me trompe pas.
Oui, exactement. Puis il y a de la jurisprudence au Québec qui touche à ce sujet-là. Si le contexte des principes Gladue s'applique en protection de l'enfance, puis je me rappelle dans le passé d'en avoir lu quelques-uns.
Oui, mais encore là, c'est pas nécessairement tous les juges, puis ça fait pas encore partie du stare decisis, parce que c'est de la jurisprudence qui est restée au niveau de la Cour du Québec, qui n'est pas montée en appel, je me rappelle bien.
Oui, absolument.
Donc, on peut espérer que les autres juges vont venir vous voir, vous parler pour qu'on aille une meilleure compréhension, puis peut-être espérer avoir des décisions de principe qui pourront obliger les juges à en prendre en compte la réalité des peuples autochtones dans leur ensemble.
Oui, on verra bien.
Ben, j'ai l'impression que vous avez une personnalité, si je peux me permettre, qui va s'arranger pour qu'ils comprennent.
J'ai pas de commentaire à ajouter à ça.
Non, mais le juge en chef, Richard Wagner, a dit que vous aviez des principes, vous êtes authentique, vous êtes travailleuse. Je pense que vous lâcherez pas le morceau facilement.
Mais ça m'arrive de temps en temps, donc.
Vous avez fait le droit, mais vous avez apparemment rêvé de droit très jeune dans votre vie.
Oui, absolument. Lorsque j'avais 9 ans, j'ai décidé de devenir avocate. Donc, j'ai fait la grande annonce à mes parents. Puis, mes parents, c'était vraiment pas au niveau professionnel. C'était pas des avocats, des médecins. C'était une enseignante, puis un travailleur, un machiniste qui travaillait.
Oui, mais attention, là, pourquoi avocat?
Sais-tu, je le sais pas. Puis, c'est drôle, tout le monde me demande ça dans les derniers temps. Puis, je dis tout le temps, c'est comme si c'était inné. C'est pas comme si j'étais petite, puis j'écoutais Perry Mason. Puis, je sais pas d'où ça sort. Puis, c'était comique parce que lorsqu'il y était temps de faire nos demandes de stage comme avocat, la question qui me tuait tout le temps, c'était, ben pourquoi veux-tu devenir avocate? Puis, pourquoi veux-tu, tu sais, être avocate à notre bureau? Puis, la réponse disant, ben c'est juste inné, j'ai juste toujours rêvé de ça. Des fois, c'était pas toujours une bonne réponse, mais c'était vraiment la vérité.
Ben, quand vous fréquentiez, à 9, 10 ans, 12 ans, vous fréquentiez vos petites amies, les amis des garçons aussi, est-ce que vous aviez toujours raison parce que vous étiez une bonne plaideuse?
Ah, ça, ma mère, elle te dirait, en franco-ontarienne, j'étais estineuse pas mal.
Oh, être ostineux, on peut devenir avocat comme ça?
Il paraît.
Ouais, hey, ben, j'ai un enfant qui est de même. Des fois, on se demande.
L'arbre, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, là, c'est ça?
C'est ça, là.
Moi, je suis curieux. Je suis un Abénaki d'Odanak comme vous, juge Bomsawin, ayant grandi à Val-d'Or, donc loin de la communauté. J'avais quand même un certain lien avec la communauté dans mesure où ma grand-mère habitait toujours à Odanak, donc j'y allais régulièrement. Vous, quand vous avez grandi comme ça dans la région de Sudbury, faut expliquer aux auditeurs qu'il y a une grosse gang d'Abénaki à Sudbury qui sont allés travailler, je pense, dans le domaine minier là-bas, hein?
Oui, absolument. Mon arrière-grand-père et son père sont partis d'Odanak pour aller s'installer justement dans la région de Sudbury pour travailler dans les mines.
Puis ce lien-là, cette connaissance-là du fait, c'est sûr qu'avec votre nom, vous pouviez pas trop cacher vos origines abénakis, mais il reste que c'était quoi justement ce lien-là? C'était un lien affectif, c'était un lien moral? Est-ce que vous aviez de la famille que vous pouviez venir visiter dans la communauté?
C'était un bon lien. Nous, ma tante Pauline, une des sœurs à mon père, c'était vraiment notre représentante de Danak comme piéteur à Sudbury.
Oui, oui, oui. Je connais Pauline un peu.
Un grand lien avec Danak. Puis, on avait quand même des rencontres où est-ce que Réjean, Nicole, Obamsawin, Evelyne, donc ils venaient à Sudbury. Des fois, nous allons à Odanak. Puis, donc, il y avait quand même ce lien-là qui s'est maintenu. Moi, mes premiers souvenirs d'avoir eu été à Odanak, c'était environ ça, le 9-10 ans.
OK.
Moi, je vais y aller assez directement. Quand vous avez fait des stages dans les bureaux d'avocats, oui. Le fait de s'appeler Obamsawin, c'était un avantage ou un handicap?
Vraiment, c'était neutre. C'était pas une question qui se discutait vraiment à ce moment-là. C'était pas quelque chose qui, tu sais, t'es autochtone, qu'est-ce que tu fais ici? Pour être honnête, moi, je dirais que c'était plutôt neutre. J'étais quand même chanceuse dans ma carrière où que j'ai eu du travail. J'ai fait un stage d'un petit cabinet de 3 avocats. Puis donc, j'ai eu du bon mentorat. Lorsque j'étais à Post Canada, comme vous le savez peut-être, moi, j'ai jamais travaillé comme avocate dans une firme. Moi, j'ai toujours été qu'est-ce qu'on appelle in-house. Travailler pour des entreprises, puis des entreprises publiques comme Post Canada, puis le groupe des services de santé Royal Ottawa. Donc, pour moi, comme avocate à Post Canada et au Royal, c'était très vu d'une façon positive d'être autochtone. Je m'étais beaucoup impliquée dans le recrutement pour les personnes autochtones du Nord à Post Canada. J'organisais les Journées nationales des personnes autochtones. Puis à l'hôpital Royal, j'ai établi de nombreux programmes, puis de liens, par exemple, avec le Collège Algonquin pour assurer que les élèves autochtones puissent venir faire des stages au Royal. J'ai travaillé aussi avec l'Université Saint-Paul pour essayer de créer un programme des écrivains Gladu. Donc, j'ai eu beaucoup d'implications. Donc, je pense, j'ai dit neutre, mais là, j'y repense, c'est vraiment un côté positif. Parce qu'il y avait quand même l'environnement où j'ai pu m'impliquer comme personne autochtone. Puis vraiment, c'est pas tout partout là, que t'as ça.
Puis en plus, vous êtes franco-ontarienne. Si on revient à la question à Robert, est-ce que ça a été quelque chose de positif dans votre carrière d'être franco-ontarienne, de pouvoir comprendre? C'est sûr, quand on est franco-ontarien, on parle bien l'anglais en général, donc de pouvoir être en mesure de maîtriser les deux langues officielles du pays, est-ce que ça a été quelque chose de positif ou vous avez vécu une certaine discrimination par rapport à ça?
Moi, je dois dire que c'est quelque chose qui a été très, très positif. Lorsque j'étais jeune, c'était pas toujours facile d'être minoritaire francophone dans un milieu anglophone.
Mm-hmm.
Ça, c'est sûr. Mais en fait, de carrière, moi, être bilingue, c'est quelque chose qui m'a ouvert des portes. Les postes que j'ai eus ont toujours été des postes qui étaient bilingues, donc je pouvais plaider en français et en anglais. Puis comme juge à la Cour supérieure, moi, j'étais responsable, comme la juge locale administrative, responsable de la Cour à Lorignal, qui est, je dirais, majoritairement francophone. Donc, Lorignal se situe vraiment entre Ottawa et Montréal, sur le côté de l'Ontario. Puis, donc, surtout dans la dernière année, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans ma langue française.
Votre carrière en étant nommé comme ça à la Cour suprême, évidemment, c'est un beau, c'est une fleur, c'est un beau bouquet, ça correspond à une fin de carrière formidable. Mais est-ce que dans tout le long de votre carrière, vous n'avez pas eu aussi des déceptions? Il n'y a pas eu que des succès quand même?
Oh non, absolument. Puis, travailler dans le milieu du droit du travail comme une femme, je vais être honnête, ça n'a pas été facile parce que, c'est 25 ans passés, disons, c'est un milieu très masculin. Puis aller dans des plans dans le milieu de la nuit pour rencontrer des employés, des fois, ça n'est pas toujours facile. Mais tu fais tes preuves, puis par la suite, tu finis par mériter le respect des autres. J'ai eu des moments, c'est moins drôle. Par exemple, la première année que je siégeais à Ottawa, à la Cour supérieure, où que pendant une liste de motions, j'ai entendu deux avocats se parler, puis puis parler assez fort que j'ai pu entendre mot pour mot qu'est-ce qu'elle disait, puis me référer comme she's Native Indian, she's our Pocahontas of the North. Donc, ça m'avait vraiment frappé. Puis c'est quelque chose que j'ai traité avec immédiatement parce qu'à la fin de la journée, si nous restons silencieux lorsque des choses discriminatoires comme ça nous arrivent, on se fait pas de faveur. Donc, automatiquement, j'ai parlé, puis j'ai dit, écoute, j'ai entendu votre commentaire inapproprié. Puis ensuite, j'ai pris des mesures. J'ai demandé que la firme ou que l'avocate travaillait se rencontre en groupe. C'était quand même une vingtaine d'avocats, je crois, pour avoir la discussion au sujet de pourquoi ça n'est pas approprié de nommer une juge autochtone Pocahontas. Donc, puis l'autre chose que j'ai fait, c'est que je suis arrivée chez moi, puis j'en ai parlé à mes enfants pour qu'ils comprennent que à la fin de la journée, ça ne fait pas de différence à quel niveau de la société nous sommes comme personnes. La discrimination peut arriver n'importe quand, mais qu'est-ce qui est vraiment important, c'est la façon dont on s'adresse, puis on en parle pour s'assurer que ça n'arrive pas de nouveau à nous-mêmes, puis aux autres.
En terminant, honorable juge Obomsawin, votre nomination permet à beaucoup d'enfants autochtones, beaucoup de femmes autochtones de rêver plus grand, je pense.
Oui, je dirais que oui. Puis c'est pour ça, moi, je trouve que c'est super important de rencontrer les jeunes, surtout. Je l'ai fait tout au long de ma carrière. Mm-hmm. La semaine passée à Québec.
Oui, j'ai vu ça à l'Université Laval.
Mais aussi, nous sommes allés aux écoles secondaires individuellement, puis je suis allée à une école, puis par la suite, moi, j'ai resté pour rencontrer les jeunes individuellement. Parce que des fois, tu sais, on peut parler à des conférences, puis ils nous voient sur l'estrade. C'est pas pareil quand tu es vraiment à 5 pieds de la personne, puis tu peux t'introduire. Puis moi, je demande tout le temps, tu sais, c'est quoi leur nom, puis quelle année, puis tu sais, c'est quoi les choses qui les intéressent. Parce qu'à la fin de la journée, moi, j'avais pas ça à cet âge-là d'avoir c'est un modèle, une personne autochtone, une juge qui est venue s'introduire à moi puis me parler de c'est mes rêves, ce que je voulais faire. Puis je trouve que c'est vraiment important. Puis je vais continuer à me dévouer à y faire.
Je vous souhaite bon succès, grand succès, que vous soyez une prof pour les autres juges. Je sais que vous avez déjà été chargé de cours. Théa Léonie, c'était un grand honneur de vous avoir à notre micro.
Oui, Léonie.
Au revoir.